Sur RDWA 107.5 FM et sur le net au www.rdwa.fr. Ce soir, je vais vous proposer trois lectures, en trois textes qui n'ont rien à voir, en d'autres en commun que le fait que j'ai très envie de faire découvrir ces trois auteurs. Donc le premier auteur, c'est Julien Campredon. Julien Campredon qui a publié aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture deux recueils de nouvelles. Le premier recueil s'appelle L'attaque des dauphins tueurs. Le second, Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes. Je vous recommande une petite visite au site des éditions Monsieur Toussaint l'ouverture pour vous rendre compte un petit peu de l'univers qui est le leur. Julien Campredon, pour le présenter brièvement, je ne ferai pas ici ça biographie. Simplement, je pense que toute personne qui aura aimé les livres de Miyazaki, que ce soit Kafka sur les rivages ou La course aux moutons sauvages, pourront être sensibles à son univers à lui, qui est peut-être un peu moins poétique, mais en tout cas tout aussi onirique, un peu plus barré, un peu plus déjanté, un peu plus grunge, un peu plus mordant aussi socialement pour certains des textes. Vous retrouverez cet auteur dans plusieurs des émissions que je proposerai sur RDWA. Ce soir, je vais vous présenter Le lièvre, l'olivier et le représentant en rond-point. J'ai choisi ce texte parce que je déteste les ronds-points. Je vous laisse donc écouter ce que Julien Campredon en dit. Le lièvre, l'olivier et le représentant en rond-point. Il existe une légende à Pontrandon. Le lièvre, l'olivier et le représentant en rond-point. Il existe une légende, à Pontrandon, qui associe de façon totémique un lièvre et un olivier à la fondation du village. Lors de son intronisation municipale, le nouveau maire de Pontrandon ne manqua pas d'y faire allusion. C'était certes un peu convenu, mais tout le monde avait applaudi. Ensuite, il y avait eu le vin d'honneur, le vin de noix, le vin de pêche, le vin de prune et pour finir, le vin de trop. On avait bien rigolé de la fin tragique du dernier maire, celui qui avait été lynché par la population pour avoir endetté son village de 423 habitants en faisant construire un parking aérien à côté de l'église, dont désormais on ne devinait même plus le clocher. Ses administrés fous de colère avaient fini par le noyer dans un baquet d'huile de vidange après avoir découvert le nouveau montant de leur taxe foncière. Plus tard, dans la soirée, le deuxième adjoint m'avait montré ses fesses, et pour le reste, c'est plus flou. Toujours est-il que lorsque l'orage éclata, c'était la deuxième fois que le nouveau maire de Pontrandon faisait le tour de ribote klaxonnant les putes dans les venelles. Il voyait des putes partout. Fatigué, il donna un coup de frein à main et lâcha la pédale d'embrayage, ce qui fit caler la voiture dans un sursaut retenu. Une pute, lui semblait-il, vint frapper à la vitre de sa portière. En bleu de travail, avec des grosses lunettes à double foyer, son 1m50 se voyait couronné d'une moustache en poil de blaireau sous un nez avec des points noirs. Si noir qu'on aurait dit des pointes de clous.
Peut-être pas une pute,
pensa-t-il. Et sans ouvrir sa porte, il redémarra le moteur de sa vieille essence. Il avait envie de manger des huîtres, aller à Gruissant par Saint-Laurent, et le plus simple, c'est par là. Les éclairs qui striaient l'horizon vallonné lui semblaient autant de panneaux indicateurs fléchant la route à suivre. Avant d'arriver à la Grasse, il vit sur le bord de la route une forme qui, selon lui, pouvait aussi bien s'apparenter à l'autostoppeur qu'au sanglier, renard ou autre ragondin. Un bon vieux dérapage frein à main, et voilà la voiture en travers de la route mouillée. Encadré par deux éclairs, un homme de petite taille, en imperméable lunettes raies sur le côté, lui apparut distinctement. Imperturbable, l'homme restait campé sous la pluie, tenant à deux mains un sac de représentant de commerce. Sagement, il semblait attendre le conducteur ivre. Ce dernier sortit de la voiture et mâchouilla quelque chose qui voulait dire
« Je suis le maire de village, par là. »
« Enchanté ! J'adore les maires, et tous les maires sont mes amis. Vous exercez une fonction admirable, monsieur, bravo ! Je vous dis cela sincèrement, j'aime particulièrement être en relation avec les édiles locaux. En même temps, c'est tout naturel, je suis représentant en rond-point. Tenez, voici ma carte. Et vous ? Aimez-vous les ronds-points comme ceux-ci vous aiment ? À ce propos, répondez-moi. A priori, votre agglomération dispose-t-elle de suffisamment de ronds-points? Ou plus exactement, de combien de ronds-points est équipée votre municipalité?
Il pleut, je dois aller à Gruissant pour manger des huîtres.
Gruissant? Comme c'est étrange, je devais m'y rendre justement. Le hasard, n'est-ce pas? Avez-vous déjà visité la périphérie de Narbonne, Carrefour des Suds? Modestement, je vous avouerai que c'est moi qui l'ai équipé en giratoire.
Hein?
Et lui, ville rond-point de l'année, en 1994, je crois.
Les huîtres.
J'y viens, justement. Mais avant, j'ai un projet fou à vous soumettre. Vous voyez à quoi ressemble la croix occitane? Une croix dont le centre est marqué d'un cercle et chacune des branches s'évase pour se diviser légèrement en trois ramifications qui se terminent elles-mêmes par un cercle.
J'en ai une sur la cheminée.
Très bien, bon goût, formidable, incroyable même. Mais revenons à des questions d'urbanisme plus pratiques. Je vais adapter le schéma de la croix occitane pour dessiner les plans des futurs ronds-points de votre municipalité. Vous avez une place au milieu du village, avec un truc comme une halle du 14e, par exemple?
Non, 13e.
Parfait, on rase tout. À la place, on monte un rond-point qui se ramifie sur les 12 autres de ma croix occitane. Je sens que ça va vous plaire, et si ça peut vous faire plaisir, ça me fait plaisir. Je me permets, pour fêter ça, de vous offrir un peu de Carthagène, j'en ai toujours sur moi. Et puis tant qu'à faire, nous n'avons qu'à nous tutoyer. Comment t'appelles-tu?
Jean-Pierre.
Magnifique! Tu ne me l'aurais pas dit, je l'aurais deviné, c'est évident. Écoute, Jean-Pierre, il faut absolument qu'on se fasse la bise. Et puis finis la bouteille, j'en ai une autre dans ma sacoche. Lorsque Jean-Pierre se fut remis de cette mémorable cuite, il n'aurait su dire s'il avait dormi une heure ou un siècle. Il savait juste que la Carthagène rancunière lui raclait l'intérieur de la boîte crânienne à la petite cuillère. Vaseux, il enfila ses chaussons un par un et se traîna dans le salon. Un fax était en train de sortir et machinalement il retira la feuille pour lire le message en déjeunant. Il s'agissait de solutions électriques pour réaliser le câblage et la connexion de 52 feux de signalisation. Projet qui supposait l'implantation de 3 éoliennes au cœur même de Potrindon. On proposait le toit de la mairie pour la plus grande. Il n'eut pas le temps de réfléchir plus que ça à l'intérêt de la chose qu'un coup de sonnette vint lui éclater au niveau des cheveux, là où il pousse. Le maire, frottant le plancher de ses chaussons, se mit en devoir d'ouvrir la porte pour se retrouver nez à nez avec un lièvre, celui du village et de la légende justement. Jean-Pierre voulut refermer la porte, car les lièvres lui parlent toujours en patois et sentent mauvais. Mais celui-ci intercala son long pied couleur de charentaise entre la porte et l'encadrement. « C'est quoi ces couillonnades ?» disait en gros le lièvre. « Avec ces putaines de ronds-points, je tourne en rond, et à la longue, ça m'abîme les ligaments croisés. Il faudrait commencer d'arrêter à déconner, bougre d'amore. » Monsieur le maire réussit finalement à mettre le lièvre dehors. Aussitôt, coup de sonnette. C'était l'olivier du village et son haleine de tapenade.
Ça va pas, non? Non seulement pour faire tes ronds-points on m'a abattu, mais maintenant pour décorer le rond-point central, on parle de me vider de mes copeaux de bois pour m'empailler. Moi, l'olivier. Mais à quelle époque vit-on? Et l'exemple pour la jeunesse, Jean-Pierre, y as-tu seulement songé? Promets-moi que tu vas faire quelque chose, n'oublie pas que j'ai voté pour toi.
Le maire promit tout ce qu'on l'on voulait du moment qu'on le laisse un peu dormir. Comme personne ne lui faisait confiance, on lui demanda de coucher ses promesses par écrit. Bien entendu, à signer n'importe quoi, il finit écartelé par ses contribuables rendus sanguinaires par les prélèvements qui en découlèrent. C'est par une matinée radieuse qu'il fut exécuté sur l'ancienne place du Foirail, récemment démolie, celle-là même où l'on voulait à l'origine empailler l'olivier. Juste avant d'expirer, il voulut jeter un dernier regard sur le clocher de l'église, mais il ne parvint à apercevoir que la masse indéfinie de béton gris que constituait le parking aérien. Comme il était encore un peu gris lui-même, il se permit de noter que l'art roman, c'est beau, mais l'art aérien, c'est bien aussi. Là-dessus, le bourreau, qui lui était en rouge, fit signe en bâillant aux chevaux, la foule vengée applaudit, et quelques semaines plus tard, de nouvelles élections furent organisées. Voilà, c'était donc Julien Campredon dans une nouvelle qui s'appelle « Le lièvre, l'olivier et le représentant en rond-point ». J'avais pensé mettre une petite musique après cette lecture, genre Nino Ferrer, La maison près de la fontaine, l'industrialisation à gogo des villes, des banlieues, etc. Je me suis dit que c'était un peu trop classique. Je vais directement passer au second auteur, qui s'appelle Édouard Lenné, et qui est probablement la deuxième personne qui m'ait le plus fait rire au cours des 5 dernières années, mon conjoint mis à part. Édouard Lenné, c'est quelqu'un qui fait des chroniques, qui est journaliste à Libération, Après avoir exercé d'autres métiers, et Édouard Launay a consacré les dernières années de sa vie à lire toutes sortes de littérature scientifique. Les publications faites par les chercheurs, vous savez, ces espèces de publications obligatoires si on veut avoir l'espoir un jour d'être payé pour de la recherche et d'avoir un poste. Donc il a tout lu, il a lu des recensions d'articles, il a lu des publications médico-légales, il a lu des publications liées à la chirurgie, à l'urologie, en anglais, en allemand. Et à partir de la lecture de ces différents articles scientifiques, il a publié quatre recueils aux éditions du Seuil, dans une petite collection poche scientifique. Le premier recueil publié s'appelle « Viande froide et cornichons » sur les mille et une manières que nos contemporains ont de donner la mort ou de se donner la mort ou de la trouver sans l'avoir cherchée. Il a fait ensuite un second recueil dont sont issus les trois petits textes que je vais lire, qui s'appelle « Sexe machin », donc tout ce qui tourne autour des pratiques sexuelles. Et ensuite, il en a fait une sur plutôt les animaux, tout ce qui est zoologie, qui s'appelle « Au fond du zoo à droite ». Et enfin, le dernier publié s'appelle « Au fond du labo à gauche » sur toutes les études bêtes et inutiles produites par les chercheurs. Aujourd'hui, donc, sexe machin, essentiellement tourné autour du pénis en termes d'introduction, sans jeu de mots, au dernier texte qui vous sera lu ce soir. Violent coup de pompe. Sont proposés dans les sex shops quantité de dispositifs ingénieux, comme autant d'échantillons de ce que l'imagination humaine produit de plus surprenant. Ces appareils, pour les plus efficaces, arrachent à leurs utilisateurs de petits cris de surprise, parfois d'échappement de plaisir. Ça vibre, ça pompe, et d'autres choses encore. On se croirait à une expo de matériel pour l'industrie agroalimentaire. S'il avait fréquenté les sex shops d'Amiens, rare à l'époque il est vrai, Jules Verne aurait pu trousser un roman où l'aventure serait venue embrasser les nouveaux horizons du machinisme et de la physiologie humaine. « Regardez, professeur Aronnax !» aurait lancé le capitaine Nemo à son passager du Nautilus. Ceci est une pompe à vide pour stimuler le pénis. Vous introduisez votre sexe dans ce tube et hop, la pompe évaculaire créant un vide qui entraîne un afflux de sang dans les corps caverneux du sexe. Un usage répété permettra peut-être d'allonger le membre viril. En attendant, croyez-moi, professeur, ça fait du turlute tout à fait correct. Aujourd'hui, ce dispositif, à pompe manuelle ou automatique, est couramment disponible. Deux précautions d'usage toutefois. 1. Ne pas se faire pomper plus de 30 minutes d'affilée, risque vasculaire. 2. Ne jamais utiliser l'engin sur son lieu de travail. Le juge Donald Thompson, qui officiait dans le Crink County, Oklahoma, jusqu'à l'été 2004, n'a respecté ni l'une ni l'autre de ses consignes. Il glissait l'appareil sous sa robe de magistrat en début d'audience, puis dirigeait les débats d'un air pénétré. Juré et avocat étaient tout de même surpris d'entendre comme un entêtant bruit de pompe de bicyclette. Ce manège a duré des mois, y compris pendant des affaires de meurtre. On le sait car le bruit est nettement audible sur les enregistrements des audiences. Une journaliste avait repéré la chose dès 2000, puis au moins en 10 occasions, mais elle a préféré se taire. « Je voulais pas qu'on me retrouve morte dans un fossé quelque part », s'est-elle justifiée auprès d'une agence de presse. C'est dire si aux États-Unis les juges locaux sont des hommes redoutés. Un officier de police a fini par lâcher le morceau en 2003. Des enquêteurs ont retrouvé du sperme sous la chaise du juge. Au moins, celui-là ne dormait-il pas pendant les audiences. Une fois encore, la France est à la traîne. C'est tout bêtement à la main qu'un juge assesseur réchauffait son membre engourdi dans l'enceinte du palais de justice d'Angoulême à l'automne 2003. La journaliste de la Charente Libre, premier journal à rapporter l'affaire, affirme avoir assisté à la masturbation durant un bon quart d'heure. Le juge se serait livré à des gestes sans équivoque, après avoir discrètement remonté sa robe de magistrat et défait la fermeture de son pantalon. Victor Hugo, qui s'y connaissait en toutes ces matières, a écrit « La justice de l'homme n'est que crépusculaire et le juge s'y meut à tâtons ». Dans le même ordre d'idées, traque du pénis, dans Sexe machin d'Édouard Launay. Les craques du pénis, accident spectaculaire autant que douloureux, la fracture du pénis est qualifiée de blessure rare dans la littérature médicale, comme chacun des 352 articles déjà consacrés au sujet ne manque de le rappeler en préambule. Or, voilà que les auteurs du 353e article, tout juste paru dans le journal of the National Medical Association note une augmentation sensible du nombre de cas et souligne que les trois quarts ont une cause non coïtale. Comprendre, les intéressés se sont fait ça en se tripotant rudement la zigounette. Soudaine épidémie de branlette violente? Non, facteur culturel. Les auteurs de cet article sont des urologues saoudiens. Or, il est établi qu'au Moyen-Orient, la masturbation est la première cause de rupture de la verge, alors que dans le monde occidental, c'est le coït. Nous trouvons cette intéressante précision sous la plume de chercheurs chinois dans le Hong Kong Medical Journal. Dans un cas comme dans l'autre, il n'est sans doute pas inopportun de lancer ici un appel à la prudence, avec d'abord ce rappel. Si le pénis n'est pas un os, il en a presque tous les attributs, lorsque son propriétaire est en de bonnes dispositions, comme disait Pierre Dac. Le corps caverneux qui rigidifie l'engin peut casser, produisant alors un crac, dénué d'ambiguïté. La presse scientifique ne signale aucune fracture du pénis durant un rapport anal ou une fellation. Il faut toutefois se méfier. Beaucoup d'hommes accidentés hésitent à aller exhiber aux urgences leurs membres endoloris. La recherche médicale n'a donc connaissance que d'une fraction des cas. En général, on ne se fracture pas le pénis en lisant le monde diplomatique, ni même pendant un simple rapport conjugal du samedi soir. Il faut y mettre le paquet. Aux médecins qui les accueillent quand ils se résignent à aller à l'hôpital, les patients servent diverses salades. « Je me suis retourné brutalement dans mon lit alors que j'étais en érection. » Ou encore, « Je prenais le thé avec des amis lorsque l'une d'elles s'est assise par mégarde sur mes genoux. » Un hôpital du Kurdistan iranien a vu défiler 172 cas en 10 ans, ce qui est nettement supérieur à la moyenne. La raison? Une pratique locale, dite « tagandan », qui consiste à appuyer dessus comme un sourd pour accélérer la détumescence, pour débander en langage de tous les jours. Eh bien, ça marche pas comme ça. L'eau froide donne de bien meilleurs résultats et ne crée aucun traumatisme, à moins de procéder au karcher. S'il vous arrivait, malgré ces conseils de prudence, de vous la briser en jouant avec des camarades ou en la coinçant dans un radiateur, pas de panique. Ça se répare plutôt bien en général si l'urètre n'est pas abîmé. On peut rebander au bout de 2 jours dans le meilleur des cas. Mais il ne faut pas compter reprendre une activité raisonnable avec sa, son, ses partenaires avant 2 semaines. Verge ascendant taureau. Il n'est pas rare que tombent dans nos boîtes e-mails innocentes des invitations à découvrir des sites nouveaux et intéressants. « Viens voir les plus grosses bites du monde !» fut naguère un de ces appels récurrents au dépaysement. Le tutoiement est un peu cavalier, mais le superlatif est prometteur. Il fait penser à ces petites ménageries qui les trimballent de village en village, les plus grosses araignées de l'Amazonie. Magie de l'Internet, il suffit de cliquer dans le message pour être transporté instantanément au pays des plus grosses bites. Rien de tout cela n'existait il y a seulement 15 ans. La mise en page du site est soignée. Ainsi, le message « 32 cm en rut dans ta rondelle serrée » s'enroule-t-il élégamment autour du dit orifice. On ne pourrait affirmer que les 32 cm sont bien là, mais les instances supérieures de la publicité veillent sans doute au grain. Et puis, la page d'accueil du site est parcourue par un joli mètre ruban jaune qui s'affiche comme un gage de sérieux. Confronté à ces cimes, on s'alarme soudain. Mais la mienne n'est-elle pas pathologiquement rikiki? Sans rêver au triple décimètre, quel espoir puis-je caresser? À quelle altitude dois-je prétendre? Dans son numéro de juin dernier, la revue Urologie a apporté quelques éléments de réponse de nature à rassurer beaucoup de mâles. Un sexologue de l'hôpital universitaire du Caire y rapporte que ces 2 dernières années, 92 hommes sont venus dans son service se plaindre de la taille de leurs membres. Ils le trouvaient vraiment très, très court. Le docteur Chamloul, signataire de l'article, aurait pu répondre à ses patients qu'au moins ils ne risquaient pas de se marcher dessus. Mais l'homme à petite queue partage avec le colibri une absence totale de sens de l'humour. Le docteur Chamloul s'est donc contenté de la leur mesurer au repos puis en extension. Eh bien, le résultat est qu'aucun de ces 92 hommes n'avait un sexe anormalement petit. Leurs inquiétudes étaient vaines. Il faut dire que la norme est très tolérante. Tant que l'engin ne mesure pas moins de 4 cm à l'état flasque et pas moins de 7 cm à l'état turgescent, la médecine vous considère bon pour le service. L'auteur en conclut que le meilleur traitement qui puisse être administré à un homme qui s'estime un peu étriqué est de lui faire suivre un cours d'éducation sexuelle. C'est nettement moins onéreux que la chirurgie. Retour au site des verges kilométriques, où une typographie joyeuse promet des chattes toutes fraîches explosées par des bits XXL, au-dessus de photos confirmant que nous sommes au rayon grande taille. On craint que l'emploi de l'adjectif qualificatif « fraîche » ne soit inopportun dans ce contexte. Plus loin, nous apprenons que ces salopes se font démonter par des queues énormes, ce qui, en théorie, doit nous inciter à nous abonner immédiatement au site. Car il apparaît que cette exposition a, en sus de son objectif pédagogique, un but lucratif. Turgescence, turgescence aux urgences, turgescence aux urgences, turgescence aux urgences, turgescence aux urgences, turgescence aux urgences. Il est absolument déconseillé de se coincer le pénis dans une bouteille. Voilà peu la revue allemande Der Urologe détaillait le cas d'un patient de 62 ans qui avait passé 14 jours avec un goulot de bouteille en plastique autour de la verge. Résultat, gangrène et amputation. De leur côté, les Acta Urologica Japonica relatent les mésaventures d'un japonais de 38 ans qui est resté 17 heures le sexe coincé dans une bouteille de lait. Il ne s'agissait pas d'accident domestique, vous vous en doutez bien. On n'imagine pas le luxe de précaution qu'il faut prendre pour sortir un pénis d'un récipient en verre. Car le pénis est en général au dernier degré de la turgescence, et l'usage d'un marteau ne peut être envisagé qu'en dernier recours. Le plus souvent, les urologues ont à ôter des anneaux métalliques, ou cock rings, placés à la base de verges gonflées comme des ballons. À cet endroit, ils ont le même effet qu'un goulot de bouteille. Ils prolongent l'érection, augmentent le plaisir de la masturbation, épice des pratiques auto-érotiques. Pour les enlever, il faut des as de la scie à métaux et des patients au cœur bien accroché. C'est ainsi que depuis quelques années, la presse médicale est régalée d'articles du genre « Utilisation inappropriée d'un anneau pénien en titane », un challenge interdisciplinaire pour urologues, bijoutiers et serruriers, rédigé par de facétieux médecins allemands dans la revue Der Urologe. L'anneau en question n'a pu être enlevé qu'avec une scie spécialisée maniée par des professionnels de la désincarcération. Les auteurs rappellent qu'on a aussi retrouvé des sexes masculins étranglés par des colliers de serrage, des joints de plombier et quantité d'autres objets circulaires, d'un diamètre approprié, directement extraits de la boîte à outils. Le bricolage n'est peut-être pas une activité si anodine. Les photos qui illustrent ces articles sont stupéfiantes. Ce sont des défis lancés au système métrique. On n'imaginait pas que de telles érections soient possibles. Les intéressés non plus, sans doute, qui, à force de ne plus débander, se retrouvent aux urgences avec des œdèmes géants. Cela ne se finit pas toujours par une amputation, mais attention tout de même, hein, quitte à se mettre un truc autour de la verge pour bander, puis braire, comme un âne, autant prendre quelque chose d'élastique. Il se vend dans les sex shops des garrots en caoutchouc, plus faciles à enlever que des goulots ou des alliances. Certains sont même dotés de petits dispositifs vibreurs, c'est charmant. Cependant, même en ce cas, des complications ne sont pas à exclure. En 2004, le journal de la Société brésilienne d'urologie exposait les mésaventures d'un homme de 49 ans, devenu incapable d'éjaculer après 6 ans d'utilisation d'un tel gadget. Tout ça pour des érections de 4 heures, ce qui fait vraiment long pour ce genre de loisir.
Je t'ai rencontré à l'Alhambra, Michel Legrand jouait ce soir-là. La salle entière tremblait de joie, moi je tremblais à cause de toi. Et je criais comme une folle, mon cœur battait le rock'n'roll. Oh baby, 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 je suis heureuse assise ici. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est bien plus bas qu'à théorème. On va se marier, se marier, se marier, sitôt qu'ils auront l'eau tournée. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, tourner tes reins, tes mains, tes yeux. Prends-moi bien vite contre toi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jasait comme Dieu lui-même, les gens dansaient devant la scène. Tu me serrais dans tes bras durs, on entendait vibrer les murs. Je voyais que tes yeux, tes grands yeux gris, je me sentais mieux qu'au paradis. Oh baby, 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 je suis heureuse, si, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est bien plus bas de
t'inquiéter, après on va se marier, si tôt qu'ils auront le dos tourné, je te veux tourner tes reins, tes mains, tes yeux, prends-moi bien vite contre toi, comme ça. Baby, je suis heureuse assise ici. Je t'aime, c'est bien plus mal qu'à dire. Et on va se marier, si donc ils auront le dos tourné. Je te veux, tourner tes reins, tes mains, tes yeux. Prends-moi bien vite contre toi, comme ça. Oh baby, oh, emmène-moi chez toi cette nuit. Je t'aime, malgré ta cravate à système. On va se marier, sans même attendre nos papiers. Je te veux, rentrons tout de suite, c'est encore mieux. Tu me prendras contre toi, comme ça.
Après cette petite pause musicale, vous êtes toujours sur RDIWA 107.5 FM. Voici le dernier texte de notre soirée, qui est tiré d'un roman assez épais de 600 pages, paru aux éditions du Seuil. Un roman d'Alain Fleischer. Alain Fleischer qui est un auteur, plasticien, vidéaste, professeur, un peu touche-à-tout. Et en l'occurrence, touche aussi à la gente féminine, puisqu'il a été initié aux choses du sexe assez tôt, à l'occasion d'un séjour linguistique fait en Angleterre à l'été 1957, en tant que bon français originaire d'une famille britannique. Il a passé ces deux mois d'été donc en Angleterre, accueilli par une famille qui accueillait également des personnes issues des colonies britanniques. Donc dans une bonne famille traditionnelle anglaise où on mange des pancakes, on boit du thé à 5 heures, on fait des garden parties, on apprend à jouer au cricket. Et parmi les personnes, les pensionnaires donc de cette famille au cours de l'été 57, se trouve Barbara. Et le petit Alan, 13 ans, et Barbara, 16 ans, vont s'initier aux choses du sexe. Je vous laisse donc savourer cette histoire de fellation tirée de L'amant en culotte courte par Alain Fleischer. Nous sommes entrés dans la cabane sans chercher l'électricité. Par une ouverture en hauteur, pénétrait un peu de ce qui restait de lumière dans le ciel. L'intérieur ne comportait qu'un banc, étroit et bas, et des crochets de métal en guise de porte-manteau. C'était un piètre abri pour des amants, et je ne sais pourquoi j'avais espéré un lieu plus accueillant, peut-être en souvenir des refuges en montagne. Ne trouvant rien de mieux à faire, je posai ma raquette. Barbara sentait ma déception et mon embarras face à une pièce aussi ingrate. Sans doute ai-je aussi commencé à ressentir un léger ridicule. Être entré là, pour y chercher quoi? Dans l'obscurité et dans nos tenues blanches pour le tennis qui devenait presque phosphorescente. Barbara m'a poussé contre un mur et cette fois-ci sans préambule, sans précaution, sans prévenir, par un instinct de la situation. Il ne fallait pas que celle-ci retombe et aille pourrir dans l'indécision et dans l'absence d'initiative. Elle a commencé à m'embrasser, nous étions sauvés. Il y avait un peu de précipitation dans son attitude, la volonté de prendre les devants, de ne plus être celle qui s'était laissée faire sur le lit la première nuit. Elle voulait me prouver quelque chose, qu'elle avait de l'expérience, du savoir-faire, du désir ou du sentiment. Elle ne cessait de m'embrasser, interminablement, comme lors du premier baiser à Kenwood, mais c'était aussi pour gagner du temps, ou pour m'interdire de bouger, tandis que ses mains s'éloignaient, se désintéresser du jeu de nos bouches, de nos langues. Comme après déjeuner sur le tabouret du piano, elle a cherché le boutonnage de mes culottes courtes. Mais ce qu'elle avait peut-être appris alors ne lui était maintenant d'aucune utilité. En dehors d'un bouton unique à la ceinture, mon short de tennis s'ouvrait par une fermeture éclair. C'était moins charmant. Dans son entreprise, je comprenais que Barbara me sommait de ne rien essayer et de me laisser faire à mon tour. Elle voulait se satisfaire et se servir, mais pour montrer qu'elle savait donner. Le sang me nouait la gorge et me battait aux tempes quand j'ai senti ses autres mains que les miennes, plus délicates, à la peau plus douce, sorte de longs pétales qui venaient de me déshabiller comme l'aurait fait celle d'une infirmière, maintenant dégager ce qu'elle convoitait pour s'en saisir. Ces manipulations de Barbara au bas de mon ventre qu'elle avait mis à nu, aussi troublantes qu'elles étaient, ont commencé à nous séparer l'un de l'autre, nous privant du doux contact de nos corps, jusqu'à ce que même nos bouches se quittent. Lentement, Barbara avait commencé à s'effacer, à descendre, à disparaître. Son visage n'était plus devant moi. J'avais perdu son regard, ses lèvres. Il n'y avait plus rien à regarder que la cloison de bois face à moi, dans l'obscurité envahissante. Barbara me laissait seule. Elle m'abandonnait. Elle ne me laissait rien d'elle, rien que j'aurais pu encore tenir dans mes bras ou dans mes mains, caresser, enlacer, embrasser. Elle s'était soustraite, accroupie devant ce qu'elle avait appelé « prick » ou « coq » la nuit de la première fois, qu'elle venait de tirer des vêtements et qu'elle tenait dans ses doigts. Bientôt, en cette partie-là de mon corps que je sentais exposée, vulnérable, alors que ma situation me semblait à la fois indécente et ridicule, culotte courte au genou, une douceur inconnue, indescriptible, m'a enveloppée. Je n'avais pas tardé à identifier la figure et le but de la posture. Un classique en somme dans l'imagerie colportée par les garçons, sur ce à quoi ils peuvent faire consentir les filles, ou à quoi les plus vantards et les plus brutaux prétendront les contraindre, surtout à cette époque où cela pouvait pallier l'acte sexuel principal, auquel certaines résistaient par peur des conséquences. Mais ce que je ressentais dans l'obscurité, sans chercher à rien voir, ne correspondait à rien, ni aux descriptions grossières des apprentis sorciers, ni aux anticipations de l'imagination. C'était une douceur encore différente de celle, extrême, que j'avais découverte entre les cuisses de Barbara deux nuits plus tôt. Une douceur plus animée, plus active, plus attentive, plus variée, plus changeante, à la limite du supportable. C'était aussi comme le mouvement d'un récit, une douceur qui serait celle de quelque chose que l'on raconte à mi-voix, un secret, la douceur d'une histoire ancienne enfin avouée, une douceur qui se décrirait elle-même, qui raconterait sa propre origine, son objet, son objectif. Une douceur vivante et chaude, animée et discrète comme celle d'une parole murmurée, presque silencieuse. Je n'avais pas soupçonné que cela pût être ainsi, d'une telle douceur, d'une telle générosité, délivrant une telle volupté. Je songeais que Barbara m'offrait l'équivalent inversé de ce que la petite Arlette, 13 ans, avait reçu d'un homme tous les jeudis dans un square de la Porte de Saint-Cloud à Paris, quelques années plus tôt. Dans son entreprise, Barbara se montrait hardie, résolue, obstinée, inlassable. Un de ces ouvrages dont seules les femmes ont la patience et dont elles seules ont le secret. Dans ma passivité, je ne poursuivais aucune fin. Cela pouvait durer indéfiniment, un délice permanent, auquel aucun terme n'était fixé par aucun excès à atteindre, par aucun dépassement, aucun au-delà de ce même plaisir. L'état voluptueux était constant, la vibration intense d'un point fixe, en suspens. Mais il m'était offert, imposé. Je ne pouvais m'y dérober, j'en étais prisonnier comme on peut l'être à l'opposé d'une souffrance. Je ne poursuivais rien, aucun but, aucune issue. Cela tombait sur moi, m'enrobait, m'enveloppait, me tétanisait sur place. L'histoire qui m'était racontée pouvait durer, se répéter, recommencer, sans jamais s'achever. Son mouvement me grisait, mais il ne m'emportait nulle part. J'étais sous l'empire d'un charme envoûtant, paralysant. Pourtant, comme je l'avais rêvé quelques heures plus tôt pendant le déjeuner, j'étais dans cette bouche, prêt à être doucement mâché, dégluti, avalé, englouti là dans le corps de Barbara par ses lèvres, sa langue, son palais. Cette offrande qu'elle me servait à genoux me semblait à la fois disproportionnée et incomplète, bouleversante et frustrante, car dans l'excès de ce qu'elle me donnait, elle me privait d'elle-même. Dans ce qu'elle m'offrait, Barbara se soustrayait à moi. Elle s'était retirée pour me l'offrir. Il y avait de la gêne et de la privation dans mon ravissement. Barbara m'exposait et me manquait. Il y avait au centre de mon corps la concentration d'une présence trop forte, et face à moi, contre le reste de mon corps et entre mes bras, une absence, un manque, la douleur d'une séparation. Sans doute me montrais-je impassible. Surpris comme médusé, je ne manifestais ni encouragement ni reconnaissance. Je me laissais faire et je m'abandonnais au plaisir. Mais j'avais hâte aussi que cela cesse, que Barbara se relève, qu'elle revienne auprès de moi, là où je l'attendais. Elle ne voulait rien savoir de cette attente en moi, d'autre chose que ce qu'elle me promettait au bout de l'histoire dont ses lèvres et sa langue et sa bouche déroulaient le fil. Elle voulait aller jusqu'au bout de ce qu'elle avait commencé à me dire, à me raconter. Et par moments, la parole en effet se pressait sur ses lèvres parmi la salive. Elle libérait sa bouche. Je me sentais moi-même sur le point d'être libérée, juste le temps de faire entendre un mot dans un souffle. « Please !» Je ne savais ce qu'elle me demandait, ce qu'elle voulait dire avec ce mot, un des premiers que l'on apprend parmi les formules de politesse de la langue anglaise. Je ne savais ce qu'elle espérait, ce qu'elle me réclamait ou ce qu'elle me suppliait d'accepter. Je ne savais ce qu'appelait la douceur de cette plainte, la sonorité de ses syllabes, elle-même si proche du plaisir auquel elle semblait conduire, et dont elle appelait l'accueil, le consentement. Sans doute fallait-il comprendre quelque chose dont la périphrase eût été « Accorde-moi ce plaisir que je veux te donner », c'est-à-dire tout simplement « S'il te plaît ». La nuit était tombée. Je pensais au risque qu'on vînt nous chercher l'un ou l'autre s'étant inquiété de ce qui avait pu arriver. Je compris qu'il fallait que, sans plus tarder, j'accepte de me laisser déglutir, avaler, que je parvienne à trouver cela au fond de moi pour le donner sans réciprocité aucune, sans avoir rien à mordre, à sucer, lécher, dévorer en échange. Alors, puisque cette tête et ce visage dont j'étais privée refusaient de me revenir et de me rendre leur contemplation, j'allais chercher Barbara, là où elle se tenait cachée. Je portais les mains là où d'habitude je ne pouvais trouver que moi-même, et où maintenant était son visage, sa bouche. Je l'ai saisie aux cheveux en aveugle. Du bout des doigts, j'ai caressé ses traits, son front, ses paupières, et jusqu'à ses lèvres par où elle me tenait prisonnier, là où je n'appartenais plus qu'à elle et où j'étais à sa merci. J'allais jusqu'à toucher ses dents qu'elle avait fait oublier, et dont la présence retrouvée rendait le discret effacement si troublant, et fort de douceur d'un corps envers un autre, contre sa propre constitution, comme lorsqu'un fauve refuse de mordre, lorsqu'un félin rentre les griffes et fait patte de velours. Alors seulement, avec la preuve qu'elle était bien là, que c'était bien elle, que ça ne pouvait être qu'elle, qu'elle était celle que j'avais le désir de voir se relever et de retrouver au plus vite, je me suis laissé aspirer, déglutir, engloutir, avaler, honteux de répandre en elle quelque chose qui n'était pas une offrande, mais une offense, une souillure, en même temps qu'elle m'offrait une extase dont j'étais cruellement privé de la sienne. Je me disais que sur la cloison de bois auraient pu être gravés ces mots. Ici, un soir de juillet, si j'ai sucé le petit Alan, 13 ans, et je n'entendais rien de trivial ni d'obscène dans cette formule. Barbara s'était faite petite pour que je sois grand. Mais revenant à moi, se redressant enfin à ma hauteur et encore au-delà, j'ai vu ses lèvres barbouiller et j'ai voulu aussitôt retourner à cette bouche, goûter en elle ce fait qu'elle avait goûté de moi. Je découvrais un goût d'amande amère et je me suis dit qu'elle avait connu ça de moi avant moi-même, ce goût que je ne me connaissais pas et qu'elle avait attendu, qu'elle avait obtenu de moi. J'aurais voulu l'embrasser, visiter sa bouche aussi longtemps qu'elle en avait fait ma prison, revenant là dans ces lieux maintenant libres et pleins de reconnaissance et d'émotion d'en avoir été l'hôte, le prisonnier, mis au délicieux supplice. Mais ce n'était pas assez, il fallait que je m'empare de ce qu'elle m'avait jusque-là dérobé. Je me découvrais une fureur d'être à nouveau celui qui dirige, celui qui entreprend, celui qui commande. Je ne cessais de l'embrasser quand ma main gauche est descendue, sûre d'elle, pour relever la jupette blanche et se glisser sous l'élastique qui était comme la limite d'un territoire au bas du ventre, avec une autorité souveraine de conquérant sur sa conquête, à nouveau soumise à son empire. Peut-être parce que j'étais redevenu un petit garçon face à une grande fille, je me découvrais de la violence, le besoin de me montrer plus fort que je n'étais. J'ai enfoncé 3 doigts en elle, je dis bien 3 plutôt qu'un seul. Je la fouillais violemment à la recherche en elle de ce que je pouvais lui donner. Elle s'est abandonnée à cette exigence, docilement, les yeux fermés, jusqu'à la satisfaire. Et puis, Barbara m'a repoussée et elle s'est précipitée dehors. À nouveau, à moi le ridicule de la situation. Je n'avais plus qu'à rajuster à la hâte mes culottes courtes, pour sortir à mon tour, car je craignais maintenant qu'elle s'enfuit, qu'elle disparût à jamais. Voilà. Bon, j'espère que ça a rappelé des bons souvenirs à certains, que ça aura éveillé de nouvelles envies à d'autres. C'était donc un extrait de L'amant en culotte courte d'Alain Fleischer. L'émission d'Histoire et Contes, c'est fini pour ce soir. C'était Aïs au micro de RDIWA 107.5 FM. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dans les mois à venir. Au revoir.